Nous écoutons la parole de Dieu de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. » Et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Donc au lendemain de cette fête de la Toussaint, et aujourd'hui, nous avons commémoré les fidèles défunts, et en particulier pendant tout le mois de novembre. C'est un temps particulier pour que nous puissions regarder vers les réalités futures, c'est-à-dire ce qui nous attend, vous et moi, et ce qui nous attend aussi jusqu'à la fin des temps. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu ces réalité dernière, ou ces fins dernières, comme on les a appelées, ou cette eschatologie, dans le langage de la théologie moderne, nous parlons d'eschatologie, nous parlons des réalités futures, et dans la tradition, nous parlons plutôt des fins dernières. Ça fait partie donc des vérités à croire, des vérités que nous devons croire. Vous savez que dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a différentes parties. La première partie, eh bien, elle concerne justement ces vérités que nous devons croire, le credo. La deuxième partie, c'est donc la partie de la sanctification, avec la grâce, la prière, les sacrements. Et la troisième partie, la morale chrétienne, avec les commandements de Dieu et de l'Église. Donc, ces vérités que nous devons croire, comme le frère René nous l'a rappelé aujourd'hui dans l'homélie, nous ne sommes pas libres d'y croire ou de ne pas y croire. Ça fait partie de notre foi catholique. Quand on récite le credo, c'est pas notre credo, c'est pas ce que moi je crois, c'est ce que l'Église croit. Et j'adhère à ce que l'Église croit. Je professe la foi de l'Église. Donc, ces vérités, il est bon de les connaître. Il est même plus que bon, il est essentiel pour nous de les connaître. Et c'est même grave si des chrétiens ne les connaissent pas. Et c'est ce qu'on peut aussi aujourd'hui, bien, voilà, un peu nous lamenter, à de voir que aujourd'hui il y a les points de doctrine qui pourtant sont fondamentaux dans l'enseignement de l'Église, eh bien ils manquent cruellement dans la foi, dans la formation, pour dire, des chrétiens d'aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de pastoral, nous parlons beaucoup de la catéchèse proprement dite, dans le sens de tout ce qui concerne notre vie de communion avec le Christ, notre découverte du Christ, notre lien avec lui, comment nous cheminons, etc. Et tout ça, c'est bon. Mais il est bon aussi, il est même fondamental pour nous de poser notre foi sur ces points qu'on appelle de la doctrine. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, il est absolument fondamental dans la vie du chrétien. Nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu, c'est sûr, mais nous ne pouvons pas ignorer aussi le catéchisme, catéchisme de l'Église catholique. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II a voulu se condenser la pensée du magistère dans le catéchisme de l'Église catholique et le donner universellement à tous les chrétiens, à tous les baptisés, du moins. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous plonger dans le catéchisme, à lire le catéchisme, vraiment, et vous apprendrez beaucoup de choses, et ça va aussi vous fortifier aussi même votre union au Christ. parce que il y a des références bibliques, il y a des références au Père de l'Église, il y a des références à certains saints, aux mystiques, etc. Et donc, ça nous donne vraiment une base, une assise importante. Quand il s'agit des fins dernières, eh bien là, pour le coup, nous avons un manque cruel, on pourrait dire, de connaissances, qui pourtant sont des connaissances basiques. Et même quelquefois, certains se permettent de les remettre en cause, comme l'existence du purgatoire, l'existence de l'enfer, etc. Alors, nous allons voir un peu tout ça. Donc, nous allons aujourd'hui faire une première partie qui concerne bien les fins dernières immédiates, ce qui arrive justement pour nous après notre mort. Et puis, nous verrons dans une deuxième catéchèse les fins dernières au sens plus, on va dire, eschatologique du terme, ce qui touche à la fin des temps. Tout d'abord, donc, il faut partir de notre conception en tant qu'homme. L'homme, par rapport aux autres créatures, est doué d'une âme humaine immortelle, qui a une dimension donc spirituelle. Cette âme qui est créée directement par Dieu. Pourquoi il faut partir de là? Parce que, justement, c'est d'elle dont il s'agit, dans les fins dernières. En premier lieu, comme on va le voir. L'âme humaine, donc, c'est un fait aussi, même philosophique. Les philosophes qui n'ont pas la lumière de la foi ont découvert à la fois l'immortalité de l'âme et la dimension spirituelle, immatérielle de l'âme. Que devient-elle alors, cette âme, après la mort? Quel est le sort de ces âmes après ce passage dans l'autre monde, ce qu'on appelle donc les fins dernières? La mort, donc, est avant tout une réalité métaphysique. C'est une réalité métaphysique. Qu'est-ce qui définit la mort? C'est la séparation de l'âme et du corps. C'est quand, justement, l'âme spirituelle n'est plus présente dans le corps, n'anime plus le corps de l'homme. Et là, on peut parler d'une véritable mort, qui est une mort, encore une fois, métaphysique. Nous n'aurions pas dû mourir pourtant, c'est vrai. La mort, elle est venue aussi par la faute du premier Adam. C'est ce que nous avons lu la semaine dernière dans la lettre de Saint Paul aux Romains. Et donc, nous sommes devant cette réalité. À la fois, il y a cette âme, source d'immortalité, et puis, donc, en même temps, la réalité de notre corps qui, lui, est voué à la mort, qui est voué à la corruption. Là où on peut vraiment définir qu'il y a mort, c'est pas seulement avec l'arrêt du cœur, comme on peut le voir aussi en médecine, etc. Il peut y avoir un encéphalogramme plat, mais il peut encore y avoir une certaine forme de vie malgré tout. Ce qui fait que la personne, pour dire qu'elle est vraiment morte, le cadavre, c'est la présence aussi de la corruption qui commence. Le premier signe de la corruption, c'est la rigidité du cadavre. Le cadavre devient rigide, livide, etc. Donc, il y a des aspects physiques. Mais tout ça, c'est extérieur. Mais notre âme, dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle devient, notre âme? Eh bien, notre âme, nous dit la foi, elle retourne à son Créateur. Dès le moment de notre mort, apparaît donc pour nous le jugement particulier. Chaque âme est jugée immédiatement après sa mort. L'Église a défini cela de foi catholique. Toutes les âmes sont jugées immédiatement par Dieu après leur mort, dès qu'elles sont séparées de leur corps. Il y a eu différents conciles, concile de Florence 1439, concile de Latran de 30, et bien d'autres conciles aussi qui ont défini cela comme eh bien, une vérité aussi de foi. Dès l'instant de la mort, notre âme comparaît, on pourrait dire, devant Dieu et devant le Christ. C'est lui qui est le juge des vivants et des morts. C'est lui qui a le pouvoir de juger, comme on va le voir. Nous voyons dans l'Évangile que le sort du bon larron est fixé au soir même de la Passion. Dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 23, verset 43, le bon larron, on le voit sur la croix, qui prend conscience de son péché, qui reconnaît que pour lui c'est justice, ce qui lui arrive, et en même temps, il reconnaît l'innocence de Jésus. C'est ce qu'il va affirmer à son compagnon de l'autre côté, en disant « Mais tu ne crains même pas Dieu, pour nous c'est justice, alors que lui il n'a rien fait. » Donc il prend conscience de son péché, il prend conscience que ce qui lui arrive est juste. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de cette prise de conscience, de se repentir, va naître aussi un acte de foi et d'espérance. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit cette réponse, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Donc, on pourrait dire, avec la Vierge Marie, c'est la seule personne qu'on est sûr qu'il soit déjà au ciel. Les saints aussi, on en est sûr, puisqu'ils ont été canonisés. Mais la première personne qui entre au ciel, d'après ce que nous dit l'Écriture, c'est donc le bon larron. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Et donc nous voyons cette miséricorde qui s'exerce même dans le moment le plus ultime et qui suffit aussi pour que eh bien, ce bon larron reçoive la totalité de la remise de ses fautes et de la peine aussi du péché. Tout homme, donc, comme on le voit pour le bon larron, c'est la même chose pour nous, tout homme est immédiatement jugé après sa mort par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Saint Jean, au chapitre 5, verset 22, il est dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » C'est Jésus lui-même qui le dit dans l'Évangile de Saint Jean. Si l'âme est en état de péché mortel, elle tombe directement en enfer pour l'éternité. C'est aussi une affirmation du Concile de Latran. Quelqu'un qui a délibérément offensé Dieu dans sa vie, qui ne s'est pas repenti et qui n'aime pas Dieu par-dessus tout, on pourrait dire que celui-là est définitivement perdu. Encore une fois, le pouvoir du jugement appartient à Dieu, appartient à Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous juge. Ce n'est pas nous, nous ne pouvons pas dire qui est damné, qui est sauvé, qui est au ciel et qui ne l'est pas. C'est le Christ Jésus qui a ce pouvoir, lui seul a le pouvoir. Mais en même temps, c'est là qu'apparaît la doctrine. Vous voyez, la doctrine, elle va regarder des cas particuliers, elle va regarder les cas. La pastorale et autres vont présenter plutôt les choses d'une manière plus directement catéchétique ou mystique même. Mais en ce qui concerne la doctrine, la mérite de la doctrine, c'est de nous donner des repères clairs. Le péché mortel non confessé conduit à la mort éternelle. Donc, voilà. Mais, bien sûr, donc pour nous, ici sur terre, nous avons la grâce de la miséricorde. Nous sommes dans l'état de miséricorde. Et donc, c'est important pour nous, à la fois de ne pas oublier cette vérité que l'Église nous enseigne sur les fins dernières, sur cette possibilité même de pouvoir se perdre, et en même temps, de prendre conscience de la grâce que nous avons, de pouvoir avoir à notre portée, on pourrait dire, la miséricorde. Le pardon de toutes nos fautes. Il suffit que nous tournons les yeux vers le Christ, que nous le demandions pardon, que nous soyons repentis sincèrement de nos péchés, que nous nous confessions en plus, et nous obtenons la grâce de la miséricorde. Et c'est parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que tout homme soit sauvé. Mais donc, nous voyons que nous devons aussi nous employer à faire nôtre ce salut, à entrer dans cette intention de Dieu, eh bien de nous sauver. Si l'âme, donc, au moment du jugement, est en état de grâce, elle va soit au purgatoire, soit au ciel, selon qu'elle a encore à satisfaire ou non pour ses fautes. Libérée de tout péché, elle va donc directement au ciel. Si elle lui reste par contre encore des peines à expier, il y a cet état qu'on appelle l'état du purgatoire, qui est pour nous, là aussi encore, on pourrait dire, une certaine miséricorde, même si, on va le voir aussi, dans le purgatoire, à partir du moment, de toute façon, où nous quittons ce temps, nous ne sommes plus dans la miséricorde, nous sommes dans la justice. Nous sommes dans la justice. Et cette justice de Dieu est encore une miséricorde, mais la miséricorde, elle est ici-bas, maintenant, elle est pour la terre. C'est maintenant que nous devons aussi nous tourner vers le Seigneur. Et le jugement donc particulier nous fait entrer devant, nous fait comparaître plutôt devant cette justice de Dieu, dont là aussi nous ne parlons plus beaucoup aujourd'hui, qui voilà, nous fait peur peut-être, ou même plus peur d'ailleurs, c'est encore pire, c'est que nous n'y pensons même plus. Et nous pensons même que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas être juge. Et c'est bien sûr, tout ça est faux. Donc, le jugement particulier donc regarde l'homme en tant qu'individu, ses mérites et ses démérites. Il y a donc après la mort une illumination qui permet à l'homme de se confronter à la vérité face à Jésus-Christ qui exerce le jugement en tant que Verbe fait chair. C'est lui qui est juge des vivants et des morts. Ce lieu donc du purgatoire, et c'est le jour pour en parler aujourd'hui, c'est n'est pas le lieu du tourment, mais c'est le lieu de la souffrance. La doctrine justement de l'Église fait une distinction. Les mots sont très importants. Donc il y a une distinction entre la souffrance et le tourment. Pourquoi ? Parce que la souffrance, elle a une certaine utilité. La souffrance, on peut en tirer un profit. Elle est synonyme aussi de rachat, de purification. C'est donc un lieu, donc le purgatoire, de souffrance, où les âmes des justes achèvent d'expier leurs péchés avant d'entrer dans la gloire. L'Église l'a défini, mais on le trouve aussi dans les Saintes Écritures. Et donc, on voit même dans le livre des Maccabées, cet épisode où, après une bataille, on fait envoyer une certaine somme d'argent au temple pour offrir des sacrifices pour les morts. Et si donc on offre des sacrifices pour les morts, c'est bien qu'il y a la possibilité d'un rachat après la mort, de pouvoir faire quelque chose qui puisse servir à ces âmes, même après leur mort. Ces âmes, donc, du purgatoire, sont déjà sûres d'être sauvées. Mais ils sont encore entachés, on pourrait dire, de peines, d'imperfections. Et donc, qui ne leur permettent pas de pouvoir entrer dans la perfection de Dieu. N'entre en Dieu que ce qui est parfait, parce que Dieu est parfait. Il ne peut pas y avoir en Dieu quelque chose d'imparfait, et donc il ne peut pas avoir au ciel encore des choses imparfaites. Et le temps du Dieu a inventé, entre guillemets, le purgatoire pour que nous puissions, nous aussi, eh bien, voilà, entrer dans cette sanctification qui nous permet d'être libérés. Parce que dans la faute, dans le péché, il y a la faute, mais il y a aussi la peine. Il y a aussi la peine du péché, qui est lié aussi à nos conséquences. On va le voir aussi dans ce qui concerne plus particulièrement la peine du purgatoire ou les peines du purgatoire. Ces âmes donc aiment Dieu par-dessus tout et elles aspirent à partager sa gloire. Elles font partie de l'Église, ce qu'on appelle l'Église purgante, c'est l'Église encore en chemin de purification. Leur peine est double. Pourquoi ? Pourquoi elle est double ? Parce que le péché lui-même est double. Le premier fruit du péché, la première conséquence du péché, c'est de nous détourner de Dieu. On se détourne de Dieu pour nous tourner soit vers nous-mêmes ou vers une créature. On voit ça en particulier dans le péché de l'idolâtrie, par exemple. On se détourne de Dieu et on se tourne vers les idoles. Et donc, ce fait de se détourner de Dieu entraîne la peine d'être séparé de Dieu. Il y a une distance entre l'âme et Dieu. Et c'est la peine principale du purgatoire. On voit Dieu, on veut aspirer à son bonheur, mais en même temps, on en est encore séparé. Et ça, donc, ça peut être aussi un enseignement pour nous. En tout cas, ça peut nous aider, nous garder peut-être nous aussi du péché sur terre. Parce que pourquoi nous péchons ? Eh bien, parce que justement, nous ne voyons pas ce que ça veut dire d'être séparé de Dieu. Il y a des pécheurs qui sont pourtant de grands pécheurs, mais ils paraissent ne pas souffrir de leur péché. Mais au ciel, justement, dans le purgatoire, là nous verrons ce que veut dire d'être séparé de Dieu. La seconde peine donc, qui regarde donc, les âmes du purgatoire, regarde l'expiation des conséquences des fautes commises. C'est donc bien, on est bien ici dans la justice. La seconde peine donc, regarde l'expiation des fautes commises. L'état des âmes du purgatoire, paradoxalement, ces âmes eh bien, ne peuvent plus rien pour elles, mais elles peuvent encore pour les autres. On peut aussi obtenir des grâces par l'intermédiaire des âmes du purgatoire. Il y a aussi dans la vie de certains saints, ou dans la vie de certains chrétiens, on voit qu'il y a une intervention des âmes du purgatoire. Il peut y avoir des grâces obtenues par les âmes du purgatoire, mais elles ne peuvent plus rien pour elles. Ici-bas, nous sommes donc dans ce temps de la miséricorde, profitons-en. Et il suffit, comme je dis, d'invoquer Dieu. Il est là, de nous demander pardon à Dieu, il nous pardonne. Nous prions Dieu, il nous exauce. Nous sommes donc dans cet état de miséricorde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est vrai pour nous maintenant, parce que le Seigneur ouvre les trésors de sa grâce. Dans le purgatoire, ce n'est plus donc ce temps de la miséricorde, mais de la justice. Et ces âmes qui ne veulent plus rien pour elles, eh bien, elles recourent aussi à notre intercession pour elles. Nous devons nous aussi prier pour elles. Et donc, c'est le rôle aussi de l'Église de prier pour les âmes des défunts, pour les âmes qui sont dans cet état, voilà, de passage, on pourrait dire, de purification. Et comment prier ? Eh bien, bien sûr, en offrant des supplications, des suffrages, en particulier, la plus grande prière qu'on puisse faire, c'est bien sûr le sacrifice de la messe. Parce que c'est là que Jésus nous sauve. C'est là que le sang du Christ est versé pour la rémission des péchés. C'est là où bien nous sommes sanctifiés et où toute âme est purifiée, dans le sang de l'agneau. Donc offrir les messes pour nos défunts, c'est leur permettre aussi, bien sûr, de pouvoir recevoir cette grâce de purification. Mais comme nous sommes aussi, dans l'état de la justice, l'Église emploie là aussi un thème spécifique, Il parle de suffrage. Nous pouvons faire quelque chose pour elle, oui, mais par mode de suffrage. C'est-à-dire que Dieu n'est pas tenu de nous exaucer. Sur terre, Dieu est tenu, il nous a promis de nous exaucer. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Priez et vous obtiendrez. Frappez, on vous ouvrira. Mais quand il s'agit de la justice au purgatoire, nous invoquons aussi des suffrages, des supplications. Nous faisons monter vers Dieu des supplications et des sacrifices pour la sanctification des âmes, mais elle appartient à Dieu, cette sanctification, et non pas à nous. Donc Dieu n'est pas conditionné, on pourrait dire, même par nos demandes. Là encore, c'est Dieu qui est le seul juge. Je vais un peu vite, mais voilà, donc on va passer donc au quatrième point, qui est l'enfer. Le lieu, cette fois, non plus de la souffrance, mais du tourment. Pourquoi le tourment? Parce qu'il n'y a pas d'espérance dans l'enfer, à la différence du purgatoire. On pourrait dire la grande vertu qui règne encore au purgatoire, à part la charité, c'est aussi l'espérance. Dans l'enfer, il n'y a plus de vertu du tout, ni charité, ni foi, ni espérance. Et donc, c'est vraiment le lieu du tourment. Et Dante, sur le fronton de l'enfer, il écrit « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance ». Comme on l'a dit, donc, la souffrance est salutaire. Le tourment, lui, est vindicatif, sans espoir et terrible. L'enfer, écoutez bien là, l'enfer a été voulu par Dieu. Là aussi, la Sainte Écriture nous l'affirme. Il a été voulu comme le lieu de la damnation du démon et de ses anges. C'est l'évangile que nous avons eu aujourd'hui à la messe, que nous avons choisi, l'évangile de Matthieu, la finale de Matthieu 25, 41. Il dit « Allez maudit dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc l'enfer, ce lieu de la damnation, eh bien, a été voulu par Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut qu'il y ait des âmes ou même des anges en enfer. Mais parce qu'il a laissé la liberté à sa créature de le choisir ou de le refuser, eh bien, nécessairement, l'enfer, qui est ce lieu de la séparation définitive avec Dieu, existe. Et donc, on relève plus de 45 passages dans les évangiles où Jésus parle de l'enfer. Donc, on ne peut pas remettre en cause cette existence, cette réalité, malheureusement. Mais l'enfer a évidemment, lui aussi, donc deux peines, comme le purgatoire. La première peine, donc la peine principale, c'est la peine de la malédiction. Allez-vous-en maudit au feu éternel de l'enfer. Être séparé de Dieu, c'est être maudit, c'est donc être loin de Dieu. Retirez-vous de moi, je vous ne connais pas. Et ça, c'est la pire peine qui puisse exister. Donc c'est ce qu'on appelle la peine de la damnation. Pour que nous comprenions Dieu, aussi a mis du feu en enfer, comme dit saint Augustin. C'est une miséricorde que Dieu ait mis du feu en enfer. Pourquoi? Parce que à travers cela, bien, il réveille en nous la crainte, la sainte crainte d'offenser Dieu, de nous séparer de Dieu. Et cette représentation du feu, bien, elle est présente dans toutes les représentations qu'on a de l'enfer. Et Jésus lui-même utilise cette image pour parler de l'enfer. Ce feu éternel, ce feu inextinguible aussi, comme dit Jean-Baptiste. Ce feu de la géhenne qui ne s'éteint pas, etc. Donc la seconde peine de l'enfer, c'est justement cette dimension de cette peine, cette damnation, cette, mais éternelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin. Enfin, on finit quand même par la note positive, celle pour laquelle nous sommes créés, la béatitude, le ciel. Hein. Nous ne sommes pas faits pour l'enfer, mais nous sommes faits pour le ciel. Et on voit que l'amour de Dieu, en fait, va loin, parce que justement l'amour de Dieu veut que, pour qu'il soit justement ce Dieu d'amour, il faut qu'il y ait le respect de notre liberté. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Il faut qu'il y ait un choix libre. Il faut que nous choisissions librement ce que Dieu veut pour nous. Et si nous ne le choisissons pas, si nous le refusons, eh bien, Dieu doit aussi, quelque part, il nous exauce, enfin, il permet qu'on soit séparé de lui. C'est le péché des anges. Le démon a voulu se séparer de Dieu, il a refusé de servir Dieu. Il a refusé le plan de Dieu. Lui et une partie donc des anges sont donc ont quitté le ciel selon le livre de l'Apocalypse. Ils ont été précipités sur la terre même. Alors donc le ciel justement, le ciel, cette béatitude à laquelle eh bien nous aspirons, celle pour laquelle nous sommes faits. Dieu nous a créés avec une âme spirituelle, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que nous partagions sa gloire pour l'éternité. Et qu'est-ce que c'est que le ciel? Eh bien, le ciel, nous dit le catéchisme, c'est une béatitude. C'est-à-dire un état de félicité absolue, de bonheur absolu. Celui pour lequel nous sommes créés. Et que pour lequel aussi Dieu veut que tout homme puisse aussi jouir de cette béatitude. Dans le Jean, au chapitre, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, qu'on a eu aussi hier, donc dans la deuxième lecture de la messe de la Toussaint, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, mais nous le savons, lorsque cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà donc en quoi consiste le ciel. Le ciel consiste dans la vision de Dieu. C'est le fait de voir Dieu face à face, sans intermédiaire. C'est la grande soif de l'intelligence humaine. Cette intelligence, donc, qui est une des facultés de notre âme spirituelle, qui est faite pour Dieu, eh bien, elle aspire à voir Dieu face à face. La vision directe de l'essence de Dieu. Voilà la grande soif de notre intelligence. Tel qu'il est, sans idée, sans représentation, sans concept. Autrement dit donc, sans intermédiaire. Et c'est ce que saint Paul appelle le face à face. Ici, nous voyons comme dans un miroir, dit saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu. Il faut mourir pour voir Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on disait, si on voyait Dieu, on avait peur. On disait, ça y est, c'est la fin pour moi. J'ai vu Dieu. Voir la face de Dieu, c'était mourir. Parce que l'homme sur terre ne peut pas voir Dieu. Et même s'il y a des grâces qui sont données à certains mystiques, l'apparition, ce n'est pas encore la vision béatifique. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'apparition de la Vierge Marie ou même de Jésus, comme Sainte Faustine ou autre, qu'ils sont entrés dans la vision béatifique. Ils sont toujours dans le régime de la foi. C'est un signe, c'est une grâce que Dieu donne, un signe qui se rend visible aux yeux de chair de telle ou telle personne qu'il a choisie, pour être aussi un témoin, souvent. Mais ça n'a rien à voir avec la vision face à face, ce qu'on appelle la vision béatifique, où justement notre intelligence est connectée, on pourrait dire, selon le langage moderne, directement à la réalité de Dieu. Sans intermédiaire, nous dit saint Thomas d'Aquin, parce que c'est quand même le grand saint aussi, voilà, de la théologie des fins dernières, hein, sans intermédiaire. Et ça, nous n'avons pas d'expérience ici sur Terre. Et il faut donc qu'il y ait une grâce qui nous soit donnée, hein, ce que donc saint Thomas appelle, avec les théologiens, hein, la Lumen Gloriae, la lumière de gloire, qui permet, qui donne cette capacité à notre âme de pouvoir voir Dieu face à face. La lumière de gloire. Et donc, c'est en ça que consiste la vision de Dieu, la vision bienheureuse. Et on appelle sa vision béatifique, pourquoi ? Parce que, eh bien, elle est source de bonheur, d'un bonheur absolu. On est totalement comblé. Il n'y a plus rien d'autre que, voilà, qui peut manquer à notre bonheur. Et saint Thomas dit même que cette lumière de gloire, eh bien, elle est proportionnée au degré, hein, de sainteté, de charité, hein, de chacun. C'est sûr que les plus grands saints, la Vierge Marie par exemple, eh bien, elle aura, voilà, une lumière peut-être plus profonde que nous. Mais il le disait aussi le curé d'Ars, hein, prenez l'exemple d'un récipient. Il disait, au ciel, nous arriverons tous, nous serons tous comblés. Que nous ayons une jarre de 600 litres ou un dé à coudre, hein, la mesure sera comble pour tous. Autrement dit, il ne nous manquera rien. Mais il y aura quand même aussi, hein, une certaine, voilà, il y a certaines âmes qui seront plus, voilà, qui plus proches de Dieu d'une certaine manière. On pourrait se l'imaginer comme ça, mais on verra quand on y sera. Hein. En tout cas, voilà, ce ciel que nous attendons, ben donc c'est cet état de béatitude, de pouvoir enfin voir Dieu face à face. Que le voile de la foi, hein, tombe, soit déchiré, et que, voilà, nous puissions goûter à sa plénitude et à son bonheur. Donc, c'était donc, voilà, un peu cette première partie, hein, que je voulais voir avec vous aujourd'hui, à la fin de notre temps, voilà. À la fin, vous pourrez demander donc à Marie, hein, je vous ai préparé un résumé, c'est pas, je ne me suis pas foulé, hein, c'est le bref de catéchisme de l'Église catholique, donc j'ai pris les numéros en bref, mais ça nous donne déjà aussi, voilà, l'essentiel, et puis c'est un moyen pour vous aussi, ben, d'aller lire, hein. Là c'était très synthétique ce que je vous ai dit, mais franchement je vous invite à aller lire le catéchisme de l'Église catholique, non seulement pour, en ce qui concerne les fins dernières, mais pour toute autre réalité aussi de notre foi, afin que, voilà, nous ayons une foi mûre, mature, hein, et qui nous aide aussi dans notre chemin spirituel. La prochaine fois, nous verrons la deuxième partie, on pourrait dire, de ces fins dernières, donc de ce qui concerne les réalités futures, avec le jugement universel cette fois, seront jugés une deuxième fois, hein, la résurrection des corps et l'entrée aussi dans les cieux nouveaux, la terre nouvelle.